Et l'enchaînement est tout trouvé. Flavien, parce que tu nous parles d'une suite de films avec Tina Turner.
Exactement,
c'est pas vrai.
Avec The Rock.
Tout à fait.
Bon, on approche de la fin de la saison, et comme souvent en fin de saison, les chroniques n'ont plus la spontanéité des débuts. On cherche vaguement des gimmicks, des running gags ou des high concepts, enfin bref, plein de termes anglo-saxons pour donner l'impression qu'on sait où on va, ce qui n'est pas le cas. Alors, en panne d'inspiration, on se résigne et on fait comme tout le monde sur France Inter, RTL ou RFM, on suit l'actualité. Et comme on le sait, la grande Tina Turner, dont on vient de parler pendant un quart d'heure, nous a quittés. Alors restons ensemble et penchons-nous sur sa carrière à l'écran, parce que oui, Tina Turner a eu plusieurs rôles au cinéma. On l'a vu en maire de Los Angeles dans Last Action Hero, clochard prophétesse sous LSD dans l'incroyable Tommy, et donc en seigneur du désert dans le film dont on parle aujourd'hui, Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. C'est long comme titre.
C'est très long.
La saga Mad Max est un des piliers du cinéma australien. Menée par un ancien médecin complètement fou, George Miller, les aventures de Max Rokatansky glissent progressivement vers un genre qui a quasiment été créé pour l'occasion, celui du film post-apocalyptique. Dans un monde où l'essence est la ressource la plus rare, Max, un mâle typique, tente de survivre. Il se retrouve, comme dans tout bon western, à devoir gérer le conflit entre deux camps, l'un mené par un nain tyrannique nommé Buster Blaster, et l'autre par Entité, incarné avec beaucoup de voix et vraiment beaucoup, beaucoup de cheveux par la regrettée Tina. Si le premier Mad Max est un classique, le deuxième un chef-d'œuvre, comme d'habitude, sinon il n'y aurait pas de chronique, les choses se sont pas super bien passées sur le troisième, sorti en 1985. La prod est lancée directement après le succès de Mad Max 2, et il faut savoir que Mad Max, c'est le bébé de George Miller et de son très bon ami et producteur, Byron Kennedy. Un succès international, surprise, qui ouvre la porte à un plus gros budget. On met donc les bouchées doubles pour faire de la surprise, de la fin de la trilogie, l'opus le plus spectaculaire. Et pendant les repérages de Mad Max 3 dans le sud de l'Australie, en 83, Byron Kennedy meurt dans le crash d'un hélicoptère à 33 ans.
Oh, putain.
Le pauvre George Miller ne s'en remettra jamais et perd toute motivation pour tourner le film, qu'il co-réalisera finalement avec son ami George Ogilvy, qui lui répète que tout va bien se passer. Miller dit qu'il ne se souvient plus aujourd'hui du tournage, qu'il a passé intégralement en deuil. Et ça se ressent dans le film. Bon, je vais pas vous mentir, c'est difficile de couper les ailes d'un génie, et Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre, garde un souffle épique, des idées folles et le charisme intact de son Mel Gibson, malgré le fait qu'il arbore un mulet pendant la moitié du film. Là où c'est un peu plus bloqué avec le public, la critique et moi, mais bon, moi on s'en fout, c'est que dans sa deuxième moitié, ce Mad Max devient ni plus ni moins qu'un film pour enfants. Notre héros givré se retrouve à protéger un groupe de gamins sauvages à la Peter Pan, et on est loin des combats de gladiateurs à coups de tronçonneuse de la première heure. Combat qui se déroule dans le fameux Thunderdome du titre, le Dôme du Tonnerre. Oh. Alors, on passe du métal hurlant au contine initiatique, et si Miller n'a pas choisi cet angle familial par hasard, le résultat n'est hélas pas à la hauteur de la trilogie. Malgré le charisme incandescent de Tina Turner en personnage d'allié ennemi, le film fait retomber sa propre sauce pour un résultat beaucoup plus consensuel. Quand résonne « We don't need another hero » sur le générique de fin, on est finalement assez proche du clip de « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour » de Daniel Balavoine. Et on n'a qu'une envie, c'est de remettre la VHS du premier Mad Max dans son magnétoscope. No disrespect aux fans de Balavoine, je ne veux pas me battre. George Miller, génie aux yeux dorés, s'est bien rattrapé par la suite en assumant de faire des vrais films pour enfants, avec les irrésistibles Babe ou encore Le Seigneur des Anneaux des Pingouins, le démentiel Happy Feet.
Oui !
Dans lequel des manchots reprennent quelques mots de Tina Turner. Mais George Miller a surtout ressuscité sa propre saga avec le bâton de dynamite Mad Max Fury Road. Si Mad Max 3 a été fabriqué en 3 ans en plein deuil, Fury Road a été créé dans la joie sur 25 ans. Mais on est dans pantoufles explosives, les auditeurs ont du goût, donc ils matent déjà Fury Road une fois par an, parce que c'est tout simplement le meilleur. Alors n'hésitez pas, pour fêter la venue de l'été et pour rendre hommage à Tina, rematez Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Ce serait un bel acte d'amour, même si dans un monde à feu et à sang, qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Vous avez remarqué que j'ai casé plein de titres de chansons de Tina Turner.
C'est beau, ouais,
c'est beau.
Dont celle-ci. Voilà. We don't need another hero.
We don't need to know the way home. Ah, non. All we want is what we
are. The Thunderdome. En mineur.
qui a été reprise et ça fait Je ne suis pas un héros.
Encore une fois.
Voilà.
Pas mal. Merci Flavien.
De rien.